Radio Prague, les informations.
Bonjour. De violents orages se sont de nouveau abattus sur la République tchèque. Le bureau de l'Ombudsman critique les conditions dans les établissements de détention provisoire. Enfin, en football, la République tchèque affrontera les États-Unis ce mardi soir en match de préparation. Comme annoncé en titre, de violents orages et une pluie diluvienne ont fait monter dans la nuit de lundi à mardi le niveau de la rivière Morava en Moravie du Sud. Les pompiers sont intervenus une trentaine de fois, la pluie ayant inondé des caves et le vent ayant abattu de nombreux arbres. Les précipitations ont été très importantes également en Bohême du Sud. Les glissements de terrain demeurent toutefois le principal danger, principalement en Moravie du Nord, dans une commune située dans les environs de la ville de Fridek-Mistek. La rivière Ostravitsa a ébranlé un pont important pour la circulation dans la région. Le pont a été fermé, il est actuellement examiné par des spécialistes. Les personnes morales et physiques lésées par les inondations pourront demander un délai pour le paiement de leurs impôts. Elles seront aussi exonérées des taxes administratives de l'imposition. Selon le site internet du ministère des Finances, elles pourront aussi payer leurs impôts par acompte. Elles jouiront donc des mêmes possibilités que les victimes des inondations qui avaient frappé la République tchèque en 2002 et 2009. Pour jouir de ces avantages, les personnes morales et physiques concernées doivent s'adresser immédiatement à la section locale du bureau de perception. Ils pourront aussi être exonérés partiellement ou complètement des droits de succession, de donation et d'autres taxes. Les conditions dans les établissements de détention provisoire tchèques font l'objet de critiques de la part du bureau de l'Ombudsman. Celui-ci affirme que les droits des détenus dans ces établissements ne sont pas respectés et que les conditions de vie sont encore plus mauvaises que dans les prisons normales. Le bureau de l'Ombudsman, équivalent du médiateur de la République, estime également que les médecins sont en nombre insuffisant et que les possibilités de sortie des détenus sont limitées. Par ailleurs, les détenus manquent de lumière du jour et n'ont que très peu de possibilités de contact avec le monde extérieur. C'est ce qu'a indiqué l'adjointe à l'Ombudsman ce mardi à la suite des contrôles effectués dans des établissements de détention provisoire par des avocats du bureau. Celui-ci a cependant constaté que la situation s'est améliorée par rapport aux derniers contrôles effectués en 2006. On passe à la culture. Le célèbre clarinettiste argentin Jura Feynman figure au programme du festival Printemps de Prague ce mardi soir. Compositeur de la musique du film consacré à l'Holocauste, La Liste de Schindler, musique pour laquelle il a reçu un Oscar en 1994, Jura Feynman accompagnera la Philharmonie nationale de Košice pour le concert de Mozart au Rodolfinum. Rappelons que le Printemps de Prague proposera encore de nombreux autres concerts avant la fermeture de ses portes le 4 juin. On passe au sport. L'équipe de République tchèque de football affrontera les États-Unis en match amical ce mardi soir à Hartford. Il s'agira du deuxième et dernier match de la tournée américaine des Tchèques. Pour leur premier match, samedi, ils avaient été battus par la Turquie 2-1. On termine avec un mot de météo. Ce mardi, jour de la fête des violas, selon le calendrier local, le temps en République tchèque est variable, à couvert, avec des pluies et des orages qui risquent d'être violents par endroits. Les températures ne dépassent pas les 22 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Après un litige ayant duré 18 ans, l'Église catholique et l'État tchèque ont trouvé un accord sur la gestion en commun de la cathédrale Saint-Guy. Retour triomphal de l'équipe de hockey sur glace champion du monde après sa victoire contre les Russes. Le chanteur tchèque Petr Muk est mort ce lundi à l'âge de 45 ans. Tels sont les thèmes de cette émission préparée pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Fini le litige concernant la cathédrale Saint-Guy, principal monument sacré du pays, situé dans l'enceinte du château de Prague. Ce lundi, le président de la République, Václav Klaus, et le nouveau primat de l'Église catholique, Dominique Ducas, ont annoncé que sa gestion serait dorénavant assurée en commun par l'État et l'Église. Alena Gebertová.
Církev bude o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám a stát k tomu bude vytvářet a zajišťovat potřebné.
L'Église s'occupera de la cathédrale en tant qu'Église métropolitaine, tandis que l'État aura pour tâche de lui accorder à cette fin les moyens matériels nécessaires, a précisé Václav Klaus. Nationalisée sous le régime communiste, la cathédrale Saint-Guy doit-elle appartenir à l'État tchèque ou bien à l'Église catholique? Cette question alimentait la chronique depuis le début des années 90. Pendant 18 ans, les droits de propriété de ce remarquable monument historique et religieux ont fait l'objet de longues tracasseries judiciaires. Si la dernière décision rendue par la justice a adjugé la cathédrale à l'État, l'Église a déposé pour sa part une plainte auprès de la Cour constitutionnelle. L'accord qui vient d'être trouvé entre l'archevêque de Prague, Dominique Duka, et le président Václav Klaus met finalement un terme à ce long litige. La cathédrale Saint-Guy, dont la construction a été entreprise en 1344 à l'initiative du roi Charles IV pour être complètement achevée en 1929, représente non seulement un bijou de l'architecture gothique, mais aussi un haut lieu de l'histoire nationale, un lieu mythique qui abrite les tombes de 6 saints, dont celle de Saint Venceslas, patron des pays tchèques, et de 10 rois. Dominique Duka, archevêque de Prague.
La cathédrale est un symbole national, spirituel, étatique et culturel cher à l'ensemble des habitants de ce pays, sans distinction de leurs confessions respectives.
Le nouvel accord, qui est accueilli favorablement par l'ensemble de la scène politique tchèque, stipule également la constitution d'un nouveau conseil de la cathédrale, chargé de son entretien et de son accès au public, qui sera composé des 7 détenteurs des clés de la chambre de la couronne. Le régime pour les visiteurs de la cathédrale Saint-Guy demeurera le même. L'entrée sera gratuite.
Lundi après-midi, l'équipe nationale de hockey sur glace, championne du monde, après sa victoire contre les Russes, 2-1, est rentrée au pays. Ovationnée, célébrée par les supporters, les joueurs et la foule n'ont pas boudé leur plaisir. Anna Kubishta.
Dès leur descente de l'avion lundi après-midi à l'aéroport de Prague, Rosenje, il était clair que l'équipe tchèque de hockey sur glace avait une bonne nuit blanche et alcoolisée derrière elle. Les festivités ont continué dès la sortie de l'aéroport, où des centaines de fans les attendaient déjà. Avant de reprendre toute leur ampleur, place de la Vieille Ville, c'est devant une place noire de monde que l'équipe victorieuse s'est présentée, applaudie et célébrée comme il se doit par des milliers de supporters enthousiastes.
Ils se sont donnés à fond, ils ont mis tout leur cœur et c'est comme ça qu'on doit jouer au hockey. Les jeunes se sont battus comme des lions, un petit pays mais une grande victoire.
Les réactions des supporters étaient à la mesure de cette victoire, presque inattendue pour une équipe sur laquelle personne ne pariait un copec il y a une semaine, après une laborieuse qualification en quart de finale. Joignant le geste à la parole, l'attaquant vedette Jaromír Jágr a jeté un gros cœur rouge dans la foule.
Quoi qu'on fasse et quelle que soit la manière dont on joue, c'est impossible de gagner sans ceci. Merci.
Bref, on l'aura compris, et la foule et les joueurs ont célébré cette victoire tchèque dans la bonne humeur. Évidemment, ce regain de foi en l'équipe tchèque va de pair avec l'espoir d'un nouveau succès, et ce, dès l'an prochain, au championnat du monde qui se déroulera cette fois-ci en Slovaquie. Un championnat qui se fera, on le sait déjà, sans Vladimír Růžička, qui avait déjà fait savoir qu'il renonçait à son poste d'entraîneur après 5 ans de bons et loyaux services. La victoire tchèque de dimanche à Cologne n'a apparemment pas ébranlé sa décision, et il a d'ores et déjà fait savoir qu'il reprendrait le travail dans son club du Slavia Prague. Quant à la star de la glace, l'attaquant Jaromír Jágr, 38 ans déjà, il ne s'est pas encore exprimé sur son avenir dans l'équipe nationale tchèque.
Petr Muk, l'un des grands personnages de la musique pop tchèque, a été retrouvé mort ce lundi dans son appartement pragois. On savait que le chanteur âgé de 45 ans souffrait de dépression. Sa mort, dont on ne connaît pas encore les causes, a pourtant pris tout le monde au dépourvu car il vivait une période heureuse de sa carrière. La critique a très bien accueilli son dernier album, paru 3 jours seulement avant sa mort. Un portrait de Petr Muk par Jarka Gisiblova. Cathedral.
Il rêvait d'être sportif et on se souviendra de lui comme de l'un des chanteurs les plus populaires dans le pays. À České Budějovice, où il avait grandi, il a fondé en 1985 le groupe Océan. Cet ensemble qui y jouait de la musique néo-romantique a fait sensation dans la Tchécoslovaquie socialiste. C'est sa voix, d'une couleur exceptionnelle, qui ne ressemblait à celle de personne, qui était la marque de Petr Muk, observe le critique musical Vojtěch Lindauer. C'était une belle voix de ténor, légèrement romantique et voilée, juste pour passionner ses groupies. Plus tard, la voix de Petr Muk retentit dans le groupe Shalom, un projet témoignant de l'admiration pour la religion et la mystique juive. 300 000 supports vendus et Rachel comme chanson emblématique est un de ses plus grands tubes. En 1997, Petr Muk se lance dans une carrière solo et sort plusieurs albums et DVD. Puis on le voit régulièrement sur la scène des comédies musicales où il campe des rôles dans Golem, Jeanne d'Arc, Galilée et d'autres encore. En 2002 et 2003, il est récompensé du titre de deuxième chanteur le plus populaire dans le pays, juste derrière Karel Gott dans l'enquête Le Rossignol Tchèque. Sa maladie, la psychose maniaco-dépressive, lui est un lourd fardeau contre lequel il se battait depuis longtemps. Pour ses proches amis, il n'avait pourtant aucune raison de céder. Il se réjouissait du succès de son album paru vendredi dernier, baptisé « Dans le labyrinthe des jours ». Encore dimanche soir, il était dans le public, applaudissant le groupe américain Kiss en concert à Prague. Le lendemain matin, la mort l'a emporté, en pleine forme artistique, au milieu des préparatifs d'un comeback de son premier groupe Océan et d'une tournée pour la promotion de son album, qui restera le dernier qu'il ait sorti.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque qui a été préparé pour vous par la section française de Radio Prague.
Radio Prague, Radio Tchèque 7, annonce la 10e édition de son concours annuel destiné à ses auditeurs. Écrivez-nous quel écrivain tchèque ou quel livre tchèque vous a le plus marqué et pourquoi. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour à Prague d'une semaine pour deux personnes. Les autres participants recevront des prix de valeur et des souvenirs. Les meilleures réponses seront annoncées dans nos émissions et sur notre site internet www.radio.cz les 26 et 27 juin. Envoyez vos réponses avant le 15 juin 2010 à l'adresse suivante Vinohradská 12 120 99 Prague, République tchèque ou par courriel à l'adresse suivante cr@radio.cz. Le premier prix pour le vainqueur est offert par Park Hotel, sponsor du concours. Park Hotel Prague, un lieu où le confort se marie à l'histoire, à la qualité et au design moderne à proximité du centre de Prague.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Vous êtes toujours sur Radio Prague. Ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Panorama. Breno Dejarnak est chercheur en sciences physiques à l'Académie des sciences de République tchèque. Il travaille dans le cadre d'Euratom sur un projet scientifique mondial qu'il explique au micro d'Anne-Claire Valuir.
Alors Renaud Dejarnak, vous êtes chercheur en sciences physiques, vous travaillez ici à Prague pour l'Académie des sciences. Alors un jeune chercheur français qui travaille pour la recherche tchèque, c'est pas forcément très commun. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous êtes arrivé ici à Prague en République tchèque?
Je suis venu après mes études. J'ai fait des études au centre du CEA à Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence. Et à l'issue de ma thèse, je voulais continuer dans la recherche et j'avais des collègues qui avaient des collaborations avec l'équipe tchèque ici, parce qu'on travaillait sur un projet européen. Donc je suis venu ici juste après ma thèse pour faire un postdoc pendant 2 ans et après j'ai décidé de rester.
Quel était le sujet du postdoc ou est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce sur quoi vous travaillez, parce que les sciences physiques c'est quand même très large et même si j'avoue ne pas y connaître grand chose, je vais essayer de comprendre un petit peu. Est-ce que vous pouvez voilà nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
J'ai fait une thèse sur la physique des plasmas appliquée à la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est en fait l'énergie qu'il y a dans les étoiles, ou dans notre soleil, et ce qu'on essaye de faire, c'est de la contrôler pour pouvoir produire de l'énergie, de l'électricité. Et en fait, ça, c'est une alternative à l'énergie nucléaire que l'on connaît, qui est polluante et qui utilise l'uranium qui va disparaître d'ici une centaine d'années. Donc, des chercheurs, il y a bien longtemps, dans les années 60, ont essayé de trouver une alternative pour produire de l'énergie en utilisant la fusion de l'hydrogène. Donc c'est les mêmes processus qui se passent dans les étoiles.
Alors pour créer quel type d'énergie, de l'électricité ou de l'énergie enfin de besoins domestiques comme l'énergie nucléaire actuellement?
Donc oui, ce sera une alternative à l'énergie nucléaire. Donc c'est une énergie nucléaire en fait, mais il y a la fission d'uranium et la fusion d'hydrogène. Donc la fission d'uranium, c'est tout le monde le connaît et c'est ce que on utilise principalement en France, tout du moins 80% de l'énergie est nucléaire, ça provient des centrales nucléaires de fission. Et là, on est en train de développer une énergie plus propre, on va dire. Il n'y a pratiquement pas de radioactivité et surtout avec une quantité de fuel qui est illimitée. Parce qu'on va faire de la fusion d'hydrogène, et l'hydrogène on peut le trouver dans l'eau, par exemple, et on a besoin de quantités infiniment petites pour pouvoir produire énormément d'énergie. Et donc ce serait pour produire des centrales qui vont produire de l'électricité.
D'accord, est-ce qu'il y a les mêmes dangers que l'énergie nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Non, pas du tout. Pour expliquer comment ça marche, on va dire que on essaye de créer ces réactions de fusion de particules d'hydrogène dans des machines qu'on appelle tokamak, qui est un acronyme russe qui veut dire chambre toroïdale à vide à confinement magnétique. C'est une grosse machine torique. Il n'y a pas de danger d'explosion parce que dans ces machines, on va créer un vide qui est à peu près 1 milliard de fois moindre que la pression atmosphérique. Et on a besoin de cette pression ou densité très faible pour pouvoir réaliser des réactions de fusion, parce que si la densité est trop élevée, ça ne va pas marcher.
Je veux revenir un petit peu sur le projet en lui-même, qui est un projet européen qui s'appelle le projet ITER, c'est ça?
Le projet ITER, c'est un projet mondial, en fait, qui a été initié dans les années 85 entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était initié par les présidents Reagan et Gorbatchev à la fin de la guerre froide pour pouvoir avoir un projet commun qui puisse apporter quelque chose à l'humanité et de produire un réacteur qui pourrait produire de l'énergie de manière illimitée. Pour diverses raisons, il a fallu attendre 30 ans pour voir ce projet ITER naître. Et il y a 3 ans, il a été signé un contrat entre 7 grandes parties, qui sont les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, l'Inde, la Chine et la Corée du Sud. Et toutes ces parties ont mis des efforts en commun pour créer un réacteur expérimental qui marcherait avec l'énergie de fusion pour produire de l'électricité. Parce que ce qu'on arrive à faire, on arrive à créer des réactions de fusion, mais on ne produit pas d'électricité, ça c'est à long terme. Mais surtout, c'est que on est obligé de donner de l'énergie pour faire marcher cette machine. Et l'énergie qu'on a en retour est inférieure à l'énergie qu'on a mis à l'intérieur. Donc pour prouver qu'on peut produire de l'électricité avec la fusion, il faut construire ce projet ITER, parce que c'est, ça dépend de la taille de, des machines. Les plus grosses machines qui existent dans le monde n'est pas assez grande pour pouvoir produire de l'énergie.
Et quelle est la place de la République tchèque, de l'Académie des sciences dans ce projet mondial et européen?
Dans ce projet mondial, une des parties est l'Union européenne, et l'Union européenne est divisée en différentes associations de recherche sur la fusion dans chaque pays. Elles sont regroupées sous le contrat Euratom de l'Union européenne. Et c'est un sujet qui n'est pas du tout secret. Donc on partage toutes les informations et on travaille main dans la main. Le plus gros tokamak qui existe dans le monde est pour le moment une machine européenne qui est basée en Angleterre, à Culham, à côté de Oxford. Et des équipes de tous les labos européens qui sont sous le contrat Euratom vont travailler, font faire des expériences là-bas et travaillent main dans la main.
Est-ce qu'il y a un tokamak ici en République tchèque?
Ben oui, il y a un tokamak. Alors, jusqu'en 2006, il y avait le plus vieux tokamak en activité du monde, qui provenait d'un des premiers tokamaks de Russie, parce que c'est les Russes qui ont inventé un peu le principe de la fusion par confinement magnétique avec ces machines tokamak. Et les premières expériences ont été faites dans les années 65, on va dire. Et les tout premiers, les deux, trois premiers tokamaks étaient vraiment des pièces de musée, et les Tchèques ont récupéré un de ces trois premiers tokamaks en 1977, et ils l'ont fait tourner et marcher à l'Académie des sciences, ici, à Prague. Bon, il y a eu beaucoup d'améliorations sur la machine, hein, c'était pas la même machine qu'il y a 40 ans. Et au bout de 30 ans, la machine avait arrivé à ses limites, et ils se sont vus offrir une machine toute neuve, un des tokamaks très intéressant et performant, de Grande-Bretagne. Le projet a commencé en 2006 et on a fait l'inauguration, les premières expériences l'an dernier. Et là, on est en train de travailler dessus. Oui. C'était un des plus grands projets scientifiques de République tchèque à l'époque.
On parle des premières expériences de l'Union soviétique dans ce domaine. Les chercheurs de l'époque soviétique ont quand même une très bonne réputation. La recherche était assez poussée. Quelle est la réputation vous êtes français, vous avez fait vos études en France, et puis vous êtes venu travailler ici. Quelle est la réputation de la recherche tchèque dans ce domaine?
En sciences physiques, je peux pas trop me prononcer, mais dans mon domaine, et vu de France, on connaissait les Tchèques parce qu'ils font partie de Euratom, on travaille ensemble, et ils avaient une très bonne réputation, très actifs, très dynamiques, et ça j'ai pu le vérifier en étant ici. C'est vraiment très agréable de travailler ici parce qu'on est très libre, et les choses vont vite, et donc ça c'est très appréciable. On a une machine expérimentale qui est moderne et très convoitée, on va dire. Et les Tchèques l'ont fait très flexible. Donc en fait, c'est très facile de venir faire des expériences. Donc on a beaucoup de collaboration avec d'autres pays. Et ça a toujours été. Un directeur de l'association Euratom, qui s'occupe de la fusion, était venu faire une présentation ici. Et il avait donné les chiffres de toutes les flux de chercheurs entre les différentes associations. Mais normalement, les petites associations se tournent naturellement vers les plus grandes, comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la France, avec des grosses machines. Et donc les flux vont de ces petits pays vers les plus gros pour partager les expériences sur des grosses machines. Et la République tchèque, c'était la seule petite association qui avait un flux de chercheurs qui allait vers la République tchèque, plus grand que les chercheurs tchèques qui allaient faire des expériences dans les autres associations. Donc ce qui montre bien qu'il y avait quand même c'était un pôle attractif pour la recherche.
C'était donc Renaud de Jarnac, chercheur en sciences physiques à l'Académie des sciences de République tchèque, qui travaille dans le cadre d'Euratom sur un projet scientifique mondial. Les propos ont été recueillis par Anne-Claire Valuire. L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur www.radio.cz/fr.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.